Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir, Christine Goémé. Bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Les disciplines, apparemment les plus arides, peuvent en réalité être les plus palpitantes. Ainsi, en est-il de l'épigraphie. Vous savez, cet art de faire parler les pierres. Les travaux de Denis Knopfler, titulaire au Collège de France de la chaire Épigraphie et Histoire des cités grecques, sont importants de plusieurs manières. D'abord, bien sûr, en lisant, et donc, en écoutant les inscriptions gravées sur les stèles, Denis Knopfler remet en mouvement une histoire qu'on a longtemps cru figée. Celle des anciens Grecs, qui gardent certes leurs profondes altérités, mais avec lesquelles on se découvre néanmoins des points communs qui tiennent aux grandeurs et aux bassesses de la condition humaine. Car loin de figer le passé, Denis Knopfler lui redonne une vie vivante. Un autre apport des travaux de Denis Knopfler consiste à avoir vis-à-vis des connaissances acquises un vrai respect des intelligences qui les ont produites. Il s'appuie bien entendu sur l'érudition de ses collègues passés et présents, mais sans l'utiliser avec une foi aveugle, car il s'agit bien là encore de remettre les savoirs eux-mêmes en mouvement et d'en réexaminer les fondements quand ils mènent à des impasses. Et puis, on ne dira jamais assez à quel point cette posture, qui autorise l'imagination à s'appuyer sur de nouvelles découvertes et à s'armer de savoir et de raison, redonne au métier d'historien toutes ses saveurs qui en font par excellence une science humaine au meilleur sens de ces deux termes. Au cours de l'entretien qu'il nous a fort aimablement accordé, il fait un point sur l'actualité de ses travaux. Écoutez. Bonsoir Denis Knopfler, merci d'avoir accepté de faire le point avec nous sur l'actualité du cours que vous avez consacré pendant 4 ans à Athènes hellénistique, nouveau développement de la recherche sur l'histoire, les institutions et les cultes de la cité. Alors, on a longtemps pensé que l'éclatante Athènes était devenue, entre la fin du IVe siècle jusqu'au milieu du Ier avant notre ère, une cité éteinte, placée sous la coupe de la Macédoine avant de l'être sous celle de Rome. Or, il n'en est rien, et vos cours renouvellent entièrement l'histoire de la Grèce antique. Ce renouvellement est rapide, puisque vous êtes parti du livre très récent de Christiane Habicht, Athènes hellénistique, que vous avez avec votre épouse Martine Knopfler traduit pour les belles lettres et dont vous avez fait l'édition critique. La dernière publication remaniée et mise à jour par vos soins de ce livre date de 2006. Mais depuis cette date, donc 7 ans, vous avez résolu nombre de nouvelles énigmes touchant à l'histoire d'Athènes. L'épigraphie serait donc une science d'avenir.
Vous avez raison de souligner le fait qu'on a affaire à un livre fort récent et il y a d'une certaine manière un paradoxe à vouloir traiter d'une question qui a été l'objet d'un livre dont je proclame qu'il est excellent, fondamental et auquel j'ai un peu collaboré pour la version française, notamment aussi pour la seconde édition de 2006.
Oui, parce que les belles lettres ayant brûlé,
oui.
On a dû refaire l'édition. Et au fond, c'est une édition récente et très informée.
Et il y a quelque chose malheur et bon, puisque cette édition française de 2006 est la meilleure de toutes les traductions, y compris l'original. Et ça, Christiane Habicht le reconnaît lui-même, c'est la version la plus à jour. Il n'empêche que... il y a du travail, encore, Dieu merci, parce que la recherche ne cesse de progresser, que Christiane Habicht lui-même, malgré son âge, reste très attentif à progresser, à changer d'opinion s'il le faut.
Donc c'est un vrai savant.
Un vrai savant. Et même s'il travaille aussi dans d'autres domaines de l'histoire du monde grec, et qu'il y a des publications de nouveaux documents. Et justement, il y a eu en 2012 un petit événement sur le plan de la, disons, de l'enrichissement épigraphique, c'est que l'on a vu paraître, coup sur coup, à Berlin, deux volumes, de gros volumes, d'un nouveau corpus des inscriptions d'Athènes, qui est encore incomplet. Donc une réédition critique avec de nouveaux, mais qui comportera un nombre considérable de volumes. Nous en avons deux, c'est déjà très précieux, parce que l'un d'eux porte sur ce qu'on pourrait appeler la période de Démosthène, c'est-à-dire cette période à la fois glorieuse et critique d'Athènes, entre environ 360 et la conquête d'Alexandre, la mort d'Alexandre et celle de Démosthène lui-même en 323-322, période dense donc, qui d'une certaine façon prépare ou précède l'Athènes hellénistique. C'est dans cette époque-là que se fait le changement. D'une part, la victoire de Philippe de Macédoine sur le monde grec, la Grèce centrale, marque un certain tournant. Encore que, personnellement, je sois d'avis que le grand tournant pour Athènes a été, s'est produit quelques années plus tard, en 335 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où Alexandre prend le pouvoir, hérite de la royauté macédonienne, parce que Athènes entre en réalité dans une phase de grande prospérité et de paix qu'elle n'avait pas connue dans les années antérieures, alors qu'elle était en lutte contre le royaume de Macédoine. En 335, s'instaure pour une douzaine d'années, sous l'influence de, sous la conduite d'un certain nombre d'hommes politiques, dont le plus célèbre peut-être à côté de Démosthène, est Lycurgue d'Athènes, un aristocrate un peu conservateur, mais désireux de remettre l'État en marche, de reconstituer les finances publiques, de renouveler les fêtes, et on viendra peut-être sur l'une des fêtes dans un instant, et cela en partie grâce à un événement peu connu de la grande histoire, mais qui a pesé très fortement sur notamment les finances athéniennes, qui a donné un nouvel essor à l'État athénien, c'est l'acquisition, la récupération, après des années de lutte, d'un petit territoire qui s'appelle l'Oropie, à la frontière de la Béotie, donc au nord d'Athènes, et de l'île de Bé. Territoire qui était disputé depuis des siècles et qui, grâce à Alexandre, selon moi, là, sur ce point, j'ai innové.
Ça, c'est votre,
j'ai innové, voilà, et votre cette innovation a été bien accueillie maintenant depuis une dizaine d'années, et elle est considérée comme un pivot de la chronologie athénienne du IVe siècle. Alors, voilà donc ce moment.
Mais et qui, évidemment, oui, c'est un grenier à blé. Enfin.
Alors, c'est à la fois un grenier à blé, il y a des ressources, il y a tout un commerce qui se fait aussi par là. Donc,
oui,
la possibilité
c'est un
péage.
Un croisement stratégique,
voyez,
etc.
Absolument,
bien sûr.
Vers ce canal de l'Eubé qui mène vers la mer Égée, qui mène vers la Macédoine. Donc, cette acquisition de l'Oropie a joué un rôle que l'on ne soupçonnait pas et qui surtout donc marque un tournant pour cette période dite de Lycurgue, qui marque une prospérité exceptionnelle. On a beaucoup de documents qui donnent l'impression qu'Athènes repart glorieusement. Et c'est le cas. Le problème, c'est que tout cela a fini de façon dramatique. Au lendemain de la mort d'Alexandre, il y a eu un soulèvement des Athéniens qui ont craint justement d'être dépossédés de deux territoires qui étaient pour eux de première importance, c'est-à-dire ce territoire d'Oropos et un autre insulaire qui était l'île de Samos. Et la menace pesait sur eux d'en être privés de façon brutale, ce qui explique largement leur insurrection, d'abord victorieuse, puis ensuite dramatique, qui entraîne un abaissement d'Athènes pendant quelques années. Elle perd sa constitution démocratique. Ça, c'était un tournant beaucoup plus important que la simple défaite sur le champ de bataille à Chéronée en 338. La perte de la politéia, la patrios politéia, la constitution.
Athènes n'est plus Athènes.
Athènes, pendant quelques années, n'est plus Athènes. Et elle va vivre pendant des décennies encore, là, une suite de vicissitudes extraordinairement contrastées, parfois violentes, parfois heureuses, mais une histoire hellénistique qui commence là avec toute sa complexité. Cette complexité ira encore en s'accroissant d'une certaine façon pour des raisons non plus historiques, mais historiographiques. C'est-à-dire qu'à partir de 299, on a presque plus de récits continus pour les événements. L'absence notamment de l'historien Diodore de Sicile qui fournissait la trame, si vous voulez. Le IIIe siècle, en tout cas jusque vers 230, est ce qu'on a pu appeler le trou noir de l'histoire grecque. C'est pourquoi l'étude des inscriptions est absolument fondamentale pour cette époque. Leur classement, la compréhension parfaite ou la plus parfaite possible de ces grands décrets qui évoquent des épisodes totalement inconnus par ailleurs. Donc l'histoire se fait plus que jamais avec des documents. Les choses vont changer un peu, non pas que les inscriptions vont décroître en nombre ou en intérêt, mais à partir, disons, des années 230, surgit, on peut dire, dans l'historiographie, la grande figure que nous évoquions il y a quelques années ensemble, je crois, de l'historien Polybe. Et Polybe va donner un nouveau regard, mais qui ne sera pas du tout athénocentrique. Il sera très peu favorable à Athènes. Donc, c'est un éclairage précieux, mais qui remplace nullement l'étude scrupuleuse des documents athéniens.
Partir, si vous voulez bien, de Nick Knopfler, de ces documents édités récemment à Berlin. Alors, qu'ont-ils permis d'apporter de nouveau ?
C'est une réédition critique, très scrupuleuse, faite en principe pour les spécialistes, puisque cette édition de l'Académie de Berlin fournit des textes grecs sans traduction, avec un commentaire en latin. Vous voyez qu'ils ne font rien pour faciliter les choses, mais ce n'est pas une raison.
C'est formidable que ça existe. Mais, on est très heureux de ça. En un sens,
je dirais oui, parce qu'il y a ce latin qui est une langue véritablement internationale et qui n'est la propriété de personne, qui n'est pas impérialiste. Voilà. Rome a été impérialiste, mais le latin ne l'est plus aujourd'hui.
Exactement.
J'apprécie cette entreprise magnifique parce qu'elle fournit l'essentiel. Elle fait un commentaire, elle donne des commentaires extrêmement succincts, mais qui permettent, à partir de là, d'aller chercher dans toutes sortes d'ouvrages des compléments. Il m'arrive d'être en désaccord avec les auteurs, avec la façon dont ils présentent, dont ils restituent des textes. Mais il n'empêche, c'est un travail magnifique qu'il faut saluer. Alors, actuellement, nous n'avons que deux fascicules. Il nous manque beaucoup de choses. Par exemple, l'entreprise a pour point de départ la fin du 5e siècle, qui est un tournant dans l'histoire d'Athènes. Ce n'est pas encore l'histoire hellénistique. Mais c'est extrêmement important, l'époque qui commence à partir d'une réforme de l'orthographe, un renouveau pour Athènes. Nous n'avons pas la première moitié du IVe siècle, nous l'attendons avec curiosité et impatience. Nous avons, donc, je vous l'ai dit, l'époque de Démosthène, puis ensuite un nouveau trou, assez long, pour pratiquement tout le IIIe siècle, et un nouveau volume qui va de 229, Nouveau tournant pour Athènes, car elle se libère de la domination macédonienne. Libération très importante. Moment où, justement, les Achéens auraient attendu qu'Athènes, décidément libre de son action, rejoignît la Ligue Achéenne. Ce que les Athéniens ne veulent pas faire. Ils tiennent à leur neutralité.
Et Athènes roule pour Athènes, en quelque sorte.
Absolument. Ils ont été toujours extrêmement, extrêmement égocentriques de ce point de vue, regardant le reste du monde avec une certaine condescendance. Et le volume fort important va jusqu'à un autre tournant de l'histoire athénienne, qui est l'année 167 avant Jésus-Christ. L'année 167, c'est le lendemain de la victoire, on peut dire pratiquement définitive, de Rome sur les États grecs, ou plus exactement sur le roi de Macédoine. Le royaume de Macédoine est éliminé, effacé de la carte. C'est un tournant majeur. C'est tout le royaume d'Alexandre qui disparaît d'un seul coup. Et ça a des effets immédiats pour Athènes, qui était du bon côté, du côté de Rome, d'obtenir, en échange de ses bons services, plusieurs îles qu'elle revendiquait depuis fort longtemps. Elle n'obtient pas l'Oropie. Elle ne peut pas encore. Ce sera bien plus tard. Mais elle obtient notamment l'île de Délos. Vous savez que l'île de Délos n'est pas bien considérable, c'est un mouchoir de poche, mais elle est centrale, c'est un port de première importance pour l'économie égéenne, et Athènes obtient ce privilège au grand dam des Déliens qui sont assez maltraités, expulsés, mais pendant un siècle, même au-delà, mais pendant un siècle, Athènes va connaître une prospérité extraordinaire, notamment grâce à l'activité commerciale de Délos. Vous voyez donc, ça n'est pas, les dates choisies pour ce fascicule ne sont pas arbitraires, 229, 167. Donc je souhaiterais m'arrêter un instant sur ce début de l'époque hellénistique. Il y a là des documents très importants, peut-être pas beaucoup de documents totalement nouveaux, à la différence du second, mais qui sont repris, qui sont présentés, étudiés de manière, on peut dire, exhaustive. Il y en a un en particulier qui est célèbre depuis longtemps, mais qui reste problématique à pas mal d'égards. C'est une loi sur les Panathénées. La grande fête d'Athènes, à vrai dire, les petites Panathénées. Ah parce oui. qu'il y avait dans cette fête pour Athéna, qui se célébrait sur l'Acropole, essentiellement, il y avait, si vous voulez, deux éditions, deux versions. Il y avait la version solennelle tous les quatre ans, les grandes Panathénées, et il y avait annuellement les petites Panathénées. Donc, nous avons là un texte magnifique qui, pour l'essentiel, pourrait-on dire, est connu depuis 150 ans, qui a fait l'objet d'innombrables commentaires, de traductions, parce que c'est finalement une source absolument essentielle pour comprendre cette fête des Panathénées, c'est-à-dire de comprendre ce qui est peut-être au cœur de l'État athénien, cette cité profondément religieuse qui célèbre sa divinité sur l'Acropole. Et l'inscription, à tort ou à raison, a été considérée un peu comme, si vous voulez, l'illustration ou l'explication de la fameuse frise ionique du Parthénon, essentiellement au British Museum aujourd'hui, cette extraordinaire suite de cette procession sur pierre qui célèbre les Panathénées. Donc c'est un texte qui a retenu l'attention depuis fort longtemps. Il s'est produit tout de même un événement en 1959, parce que l'on a trouvé un nouveau morceau de cette inscription qui était tout à fait mutilé dans sa partie haute et qui ne ressemblait pas du tout, alors que les deux morceaux se raccordent, ou plutôt vont à coup sûr ensemble. Cette première partie était un peu surprenante parce que l'on n'y parlait que fort peu des Panathénées. On disait pourquoi, enfin peut-être, on avait songé à faire un nouveau règlement des Panathénées, ce qui n'allait pas de soi. Pourquoi est-ce que vers les années 340-330, estimait-on, les Athéniens avaient-ils ressenti le besoin de reformuler les usages qui étaient ancestraux. Les grandes panathénées, c'est une fête dont l'organisation remonte aux alentours de 540 avant Jésus-Christ, donc deux siècles avant. Pourquoi, tout d'un coup, une nouvelle formulation de rites, de sacrifices qui étaient dans cette partie déjà connue depuis très longtemps? Le nouveau morceau, il a un caractère technique, financier, et on comprend que il y eut à un certain moment de nouvelles ressources qui ont pu être utilisées par Athènes pour embellir, rendre le sacrifice le plus beau possible. C'est tout à fait dans la terminologie des anciens vis-à-vis de leur divinité, et que manifestement ce renouveau était en rapport avec l'acquisition de quelque chose que la loi appelle ennea, la nea, la chose neuve. Une expression qui existait dans le fragment ancien depuis longtemps, qu'on avait du mal à comprendre. À partir de 1959, on a pu émettre une hypothèse beaucoup plus satisfaisante. C'est notamment mon maître Louis Robert du Collège de France dans les années 60 qui a eu l'idée de retrouver dans la Néa précisément l'acquisition par Athènes de l'Oropie, qui allait lui fournir de nouvelles ressources par le biais de taxes, de locations, etc. Et je pense que, même si elle a pu être mise en doute par certains, c'est une idée fondamentalement correcte. La seule rectification qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que ça n'est la date n'est plus 338, mais 331. Autrement dit, cette loi doit nécessairement être postérieure à 335. Et en réalité, je pense qu'elle a été promulguée immédiatement après, dans l'année 335-334, parce qu'on avait d'excellentes raisons de vouloir manifester à la divinité la reconnaissance du peuple. Et donc, il y a là un acquis qui a été, si vous voulez, qui a été entériné dans cette nouvelle édition. En revanche, il y a un point, et je vais évoquer très rapidement, dans le texte même du règlement religieux, qui n'a pas bougé depuis 150 ans et qui, à mon avis, est erroné. C'est une restitution qui concerne le sacrifice principal. Le sacrifice principal d'un grand nombre de vaches ou de bœufs, plutôt des vaches, c'est féminin, qu'on sacrifiait à Athéna et que l'on pouvait acquérir grâce à ces nouvelles ressources de la Néa. On précise les modalités du sacrifice et aussi, chose intéressante qu'on oublie souvent, le sacrifice est suivi par une distribution des viandes. On ne gaspille pas cette viande superbe des bœufs, ce serait absurde. Les dieux, la déesse en acquiert une part grâce à la prêtresse, à tous les magistrats. Mais ensuite, on songe à une distribution plus démocratique d'un des sacrifices aussi, le plus important sans doute, sur le grand autel que l'on n'a pas retrouvé d'ailleurs sur l'Acropole, d'Athéna.
Rome reprendra d'ailleurs
cette
procédure.
La fête des Panathénées elle-même restera à l'époque romaine, et puis elle est, si vous voulez, elle est le modèle de toutes les grandes fêtes, même si il ne faut pas enlever aux Romains toute spécificité, très loin de là, au culte
romain. Mais enfin, le fait qu'il y ait la part des dieux et la part des hommes.
Oui, ça c'est en tout cas très.
Dans
très
les sacrifices.
Particulièrement clair, en tout cas, dans les rites grecs. Et là, il y a le problème de savoir comment on allait répartir ces viandes. Ce qu'on appelle la créanomia, qui se faisait très certainement au céramique, c'est-à-dire pas sur l'Acropole même, mais dans la ville basse, dans un quartier beaucoup plus commerçant, où il devait y avoir des boucheries, des bouchers qui découpaient tout cela. Et on a donc pensé, en fonction d'une restitution admise depuis toujours, que c'était en fonction du nombre, on répartissait la viande entre les dèmes, c'est-à-dire entre les communautés qui formaient l'Attique, qui étaient de dimensions fort variées. Ça, c'est tout à fait clair dans l'inscription. Et Castos au Demos recevra, etc. Chaque dème. Mais en fonction de comment est-ce qu'on allait déterminer la part qui leur reviendrait. Alors, on a pensé que c'était en fonction de la participation des Athéniens à la procession. On a introduit une restitution, je n'entre pas dans le détail, qui me semble impossible du point de vue du grec et extrêmement et conduisant à des, des hypothèses très, fort peu vraisemblables sur la manière qu'il aurait fallu de compter les participants à la procession pour savoir s'il y avait s'il y en avait 30 qui venaient du dème d'Oinoé et 15 du dème de Marathon.
C'est impossible, ça.
C'est presque absolument. Mm-hmm. Je ne comprends pas comment on pourrait l'imaginer. Mm-hmm. J'ai proposé une restitution nouvelle, qui remplace le mot participant à la procession par le mot bouleute. Kata tous bouleutas. Et les bouleutes, ce sont les membres du Conseil athénien, l'organe, si vous voulez, principal, on peut dire, du gouvernement athénien qui prépare toute l'activité de décision avant l'Assemblée du peuple. Et alors, dans le Conseil, chaque dème était représenté en fonction du nombre de ses habitants. Ça, on le sait fort bien.
Donc c'était proportionnel, au
fond. C'était une application de la proportionnelle. et ça, c'est entièrement nouveau, je crois, pour pouvoir le dire. Parce qu'on savait que cette règle existait dans l'activité politique. Mais là, on aurait... j'utilise le conditionnel pour être prudent, mais à mon avis, c'est pratiquement assuré. On aurait le premier élément d'un élargissement de ce principe aux fêtes religieuses, aux grandes fêtes, naturellement, aux grandes fêtes publiques. Il n'y avait rien de plus simple pour répartir la viande que de dire d'Acarne, le plus gros dème, ont droit à telle part, on les divisait en un certain nombre de parts en fonction du nombre de leurs représentants au conseil. Et puis des petits dèmes ne recevaient qu'une part de viande et ils se débrouillaient ensuite pour couper chacun, pour couper les parts individuelles, si tant est qu'on procédait ainsi. Sur ce point, je ne me prononce pas. Voilà donc un exemple où une restitution a franchi les décennies et les siècles. Été entouré d'une révérence absolue par tous les historiens de la religion athénienne qui ils l'ont accepté expressément. Ce n'est pas simplement par négligence. Non, ils l'ont accepté. Et je crois qu'elle est impossible et fausse. Voilà un petit exemple donc, de l'utilité aussi de tel volume pour réfléchir à nouveau sur ces textes.
Alors, Denis Knoeffler, vous travaillez beaucoup sur des listes entières qu'on trouve sur des inscriptions et qui, au fond, n'ont l'air que d'être...
Sans argument un peu rébarbatif, peut-être.
Des documents, rébarbatifs et administratifs.
Oui, réalité, on peut en tirer beaucoup, surtout alors lorsqu'il y a... Parce que ces documents sont rarement dépourvus de toute indication. Ce sont des catalogues selon certaines catégories. Ce sont des catalogues d'éphèbes, par exemple. Et... dans un des nouveaux volumes, on a publié pour la première fois un décret pour des éphèbes au début du IIe siècle. Et on a eu la chance d'avoir avec ce document la liste complète des éphèbes, c'est-à-dire des jeunes gens qui faisaient leur service militaire sous tel archonte, donc dans une année du début du IIe siècle. Leur nombre était extrêmement réduit. Il était de 48, ce qui est peu hein, pour une année. Mais cela s'explique parce que, comme on l'avait déjà subodoré à partir de d'autres documents, à cette époque-là, l'éphébie était réservée à une élite économique, disons Athènes, une élite aristocratique, et ça n'était plus un service obligatoire pour l'ensemble des jeunes citoyens. Donc on ne pourrait pas en tirer des conclusions, si vous voulez, démographiques trop précises, mais cela montre qu'il y avait là une petite élite de gens qui, sans doute, seraient appelés à servir au plus haut niveau. Dans
oui, enfin,
l'état
des polytechniciens.
Athénien. Alors, un peu des polytechniciens, oui, on pourrait le dire, à la fois sur le plan politique et militaire, puisque dans l'Athènes et dans les cités grecques, les hautes magistratures sont le plus souvent à la fois civiles et militaires.
Denis Knoeffler, ces inscriptions qui sont publiées par les savants berlinois, ça va donner combien de volumes ?
C'est tout à fait intéressant.
Et d'autre part, au fond, quelle est la proportion de nouveautés
Alors, elle est très variable, justement.
Parce que j'ai l'impression qu'en vous écoutant, finalement, l'avenir est grand ouvert, qu'on est en train de découvrir...
Il est grand ouvert par le renouveau des études et par ce 109 qu'apporte, je citerai encore un exemple dans un instant, qu'apporte les publications nouvelles. Vous avez dit les éditeurs berlinois. Vous avez raison de dire les choses ainsi, mais en réalité... Et c'est plutôt positif. C'est une entreprise internationale. Elle est faite à Berlin.
Oui.
L'éditeur principal, Klaus Hallhoff, est l'homme qui dirige d'une main de fer, un vrai Prussien. Ça, je ne crains pas de le dire. Il a dû l'entendre déjà par ailleurs. Il dirige ça d'une main de fer. C'est lui qui veille à la correction du latin, etc. C'est un homme d'une rigueur et d'une énergie remarquables. Mais ses collaborateurs, ceux qui font les recueils, sont des anglo-saxons, des grecs,
oui,
et puis
sûr.
Aussi des français. Il y aura en tout cas dans deux volumes à venir de épigraphistes français. Je n'en suis pas parce que Athènes n'est pas mon premier souci dans la publication des inscriptions. J'ai d'autres chantiers, même si je m'y intéresse, comme vous pouvez peut-être le deviner, passablement. mais vous voyez, donc c'est une grande entreprise internationale. Et nous, ce que nous avons là, ça n'est qu'un tout début d'une série qui doit comporter une quinzaine de volumes, étant donné qu'on a publié là on ne publie en priorité que les lois et les décrets. Mais il y a beaucoup d'autres documents publics que les lois et les décrets. Vous avez dit les catalogues, vous avez dit les inventaires. C'est une chose extrêmement précieuse. Un inventaire d'un sanctuaire, vous avez tout, toutes les offrandes qui ont été apportées par les femmes jusqu'au tissu. Ce sont des documents très riches à beaucoup d'égards. Et puis, il y a toutes les dédicaces publiques, privées. Et enfin, la grosse infanterie de l'épigraphie grecque. Mais qui est souvent intéressante, c'est l'épigraphie funéraire. Donc, évidemment, et fondamentalement, pas exclusivement privée. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche. Ça n'est qu'un début, mais on peut saluer ce début qui est fait avec beaucoup d'ardeur et on peut espérer voir les choses progresser de manière régulière.
Alors, Denis Knoeffler, vous dites que vous n'êtes pas athénocentriste dans vos recherches. vous travaillez sur quoi actuellement et dans quel...
Je ne cesse jamais de travailler. Non, mais je me passionne beaucoup pour les choses d'Athènes et je le fais, je dirais, en voisin. Je le fais en voisin avec un regard qui est précisément... On peut reprocher parfois aux spécialistes d'Athènes, étant donné que leur documentation est d'une richesse incomparable, de rester enfermés dans l'Attique, de dire qu'ils sont attikotatoi, ils sont exclusivement...
Attikocentrés.
Attikocentrés. Tandis que, personnellement, je travaille fondamentalement sur une cité toute proche et une île toute proche de l'Attique. C'est la cité d'Érétrie, c'est aussi la Béotie. Donc je regarde Athènes de l'extérieur, mais avec sympathie et avec un énorme intérêt. Mais je reste quelqu'un un petit peu d'externe malgré tout. Et je crois que dans certains cas, ça me donne une espèce de liberté, sinon de fraîcheur, qui n'est pas totalement... Je dois aussi prendre garde à être parfaitement au courant de ce qui se fait dans un cercle assez restreint de spécialistes très nettement anglo-saxons, mais qui ne sont pas fermés à des apports extérieurs et avec qui j'ai de bons contacts. Mais, vous voyez, donc, un regard légèrement décentré par rapport au cœur du sujet. L'un des travaux qui m'a le plus retenu ces dernières années et qui devrait être publié dans quelques mois en l'honneur justement d'un savant américain, mais qui sera publié en Grèce, c'est une étude un peu innovante, j'espère, sur un décret d'Athènes, précisément qui a beaucoup retenu l'attention. J'en dis un mot peut-être encore, je ne sais pas. C'est un décret qui avait été trouvé dans les fouilles américaines d'Athènes, dont on ne dira jamais assez combien elles ont, et jusqu'à présent, contribué à l'enrichissement de la documentation athénienne. Quand vous parcourez ces deux nouveaux volumes, vous voyez que le nombre des pierres qui viennent de l'Agora va en s'accroissant, on peut dire, au fur et à mesure qu'on s'avance dans le cours du temps. Car dans les premiers volumes, dans l'histoire du 5e et encore du début du 4e siècle, la plupart des pierres avaient été exposées sur l'acropole. Autrement dit, ce sont des trouvailles qui ont été faites depuis assez longtemps. L'acropole est en gros connue depuis assez longtemps. Tandis que pour l'époque hellénistique en particulier, le nombre des documents qu'on exposait sur l'agora s'accroît aux dépens apparemment. Peut-être parce que l'acropole était absolument saturée, mais ça croît au profit de l'agora, et c'est pourquoi les fouilleurs américains, les épigraphistes américains ont beaucoup contribué. L'auteur d'un des fascicules, le professeur Stephen Tracy, a lui-même depuis des années publié un grand nombre de documents importants, et Dieu merci, il a pu aboutir. Avec une collègue grecque, il a pu aboutir à ce volume où il reprend, ordonne toute cette matière pour les années 229-167 avant Jésus-Christ. Un décret, donc trouvé en 1933, publié en 1936, a joué un rôle capital dans la recherche historique, car c'est un document qui honore, aux alentours de 220 Jésus-Christ, qui honore un homme d'État, Képhisodoros, ayant manifestement rendu de très grands services, et qui est honoré de façon exceptionnelle par de très grands, les plus grands honneurs, et même une innovation qui apparemment était inédite. C'était l'honneur de deux statues, non pas d'une seule, mais d'une statue sur l'agora et d'une statue également au Pirée, dans l'Emporion, c'est-à-dire le grand marché du Pirée. Alors, la première réaction, qui garde des traces profondes dans l'esprit des historiens, c'est que s'il avait obtenu deux statues, c'est que les services qu'il avait rendus avaient été exceptionnels. Et on avait apparemment une bonne raison de le penser, car ce personnage était mentionné par notre Pausanias, le périégète, le descripteur de la Grèce au IIe siècle de notre ère, notamment de l'Attique, qui fait mention de ce Képhisodoros en disant « Képhisodoros a mené une ambassade auprès des Romains. C'est grâce à lui que les Romains sont intervenus en Grèce, et ça a été le début de la fin, si l'on peut dire, pour le royaume de Macédoine. Autrement dit, Képhisodoros est la cause indirecte de la chute des rois de Macédoine et donc d'un bouleversement majeur de l'histoire hellénistique à l'échelle, on peut dire, méditerranéenne. Alors, naturellement, on a immédiatement fait le rapprochement entre les deux informations. On a considéré que on avait là l'explication évidente des deux statuts. Il avait rendu un service que personne d'autre avant n'avait pu à ce point faire à sa cité.
Au fond, un double service.
Un double service. Un service qui aurait été un peu à double tranchant, parce que faire appel aux Romains
contre les Macédoniens,
ça peut être bien dans un premier temps, quand on est la victime des attaques du roi Philippe V de Macédoine en l'an 200. Bon, on cherche, c'est le sauve qui peut, on cherche quelqu'un de plus fort pour qu'il vienne à la rescousse. Mais ensuite, ça pose tout le problème de la responsabilité d'Athènes dans l'intervention romaine en Grèce.
Absolument.
qui aboutit à... vous voyez donc, l'enjeu n'est pas mince. En réalité, ce qu'on peut montrer, une première acquisition avait été faite il y a quelques années déjà, où on avait pu montrer que les deux statuts n'étaient pas nécessairement la preuve d'honneur exceptionnel, mais résultaient du fait qu'à partir de la fin du IIIe siècle avant notre ère, probablement selon moi, dès la libération d'Athènes en 229, le Pirée avait été, ou le statut du Pirée avait changé. On avait admis qu'il serait désormais une seconde cité, qu'il aurait le même statut que la ville d'Athènes. Donc il y avait désormais deux cités. S'il y a deux cités, il faut bien que les honneurs se dédoublent. Hein. On ne peut pas favoriser le centre ancien aux dépens du centre nouveau, du centre commercial, du centre ouvert vers l'étranger, qu'est le Pirée. Donc, les deux statuts s'expliquaient en fait
oui,
par les institutions.
Oui, le statut économique et le statut politique.
Mais par un changement qui n'avait rien à voir avec ce personnage, qui était antérieur et dont d'ailleurs j'ai essayé de montrer qu'on avait déjà un exemple, mais qui avait été méconnu jusque-là. Je n'en parle pas ici, c'est un peu compliqué, mais que cet exemple existait bel et bien. Et donc, dans le cas de Képhisodoros, ce fait-là n'était pas une première absolue. Non. Ça permettait de nuancer ou de relativiser un peu peut-être l'importance de ces services, même s'ils ont été sans doute importants. Mais le paradoxe de la position traditionnelle, c'est qu'on prétend que ce décret ayant été pris quelques années après l'ambassade en question à Rome, il n'y avait dans ce décret, malgré l'éloge que l'on fait de ses services, pas la moindre allusion à cette ambassade. Ce qui était un peu paradoxal tout de même, mais on croyait pouvoir s'en tirer en disant qu'on avait par prudence à cette époque évité de mentionner les Romains, que la situation était encore fluide, etc. Que
mais c'était un silence. Les historiens ont quand même un grand art de la fiction.
Ils ont, mais d'abord, bon, il faut bien, quand on est acculé, quand on croit, les maîtres de l'érudition athénienne, les Américains de l'Agora, avaient décrété de la façon la plus catégorique que ce document datait de l'année 196-5, au lendemain de la proclamation de Flamininus qui rendait la liberté aux cités soumises jusque-là au roi de Macédoine, tout le monde, tous les historiens ont accepté cette date qui était tirée de considérations très techniques sur le calendrier d'Athènes. Bon, et ce que j'ai essayé de montrer, je vous ferai grâce bien entendu de tout le raisonnement qui est un peu technique, mais c'est que le décret en réalité, date de l'année 200 avant Jésus-Christ. Et au moment où les Athéniens lui accordent à ce Képhisodoros les plus grands honneurs, il n'a pas encore fait l'ambassade de Rome. Il a déjà rendu de grands services pendant une trentaine d'années, car après 30 ans, le décret le dit lui-même, il pouvait prétendre légalement à ces honneurs. Et car il y avait une règle à Athènes, les hommes politiques qui se jugeait digne de ses mégistai timai, de ses plus grands honneurs, pouvait en faire la requête devant le conseil de la cité, pour peu qu'ils aient de bonnes raisons à faire valoir. Ils faisaient une espèce de memento, et le conseil examinait si leurs prétentions étaient justifiées. C'est ce qu'il a fait, le décret le dit, mais il n'avait pas encore fait l'ambassade de Rome. Et on peut donc renverser complètement les choses en disant que c'est précisément parce qu'il s'était distingué et qu'il s'était rendu célèbre aussi par ses honneurs, on avait parlé de lui dans cette année 200 précisément, qu'il a été tout naturellement désigné pour mener cette ambassade. Mais ce qui ressort également de ce mémoire, c'est qu'on ne peut en aucun cas penser que les Athéniens soient fondamentalement responsables de l'intervention romaine en Grèce. Car il est prouvé, par ailleurs, et c'est là qu'intervient alors des considérations sur l'Asie mineure, sur le roi Pergame, de Pergame à Tal, sur les Rhodiens, etc., que les Romains avaient d'ores et déjà décidé l'intervention. Et donc, ils ont certes rendu service à Athènes dans les années suivantes, mais les Athéniens ne peuvent en aucun cas être rendus responsables de l'intervention romaine. Ils sont disculpés, d'une certaine façon, de ce reproche que, indirectement, Pausanias leur faisait dans la présentation qu'il donnait de l'activité de Kyphistodoros. Même si, vous savez, Pausanias était très favorable aux Athéniens. Mais en réalité, d'une manière indirecte, il les rendait responsables de cette intervention majeure de l'histoire de l'Antiquité.
Nous allons entendre dans quelques semaines un cours sur Hadrien. Alors, d'abord, je me réjouis beaucoup, beaucoup d'avoir cette perspective. Mais, Denis Knoeffler, je pense que là aussi, vous allez évidemment... c'est un des plaisirs qu'on a à vous entendre, renverser complètement la perspective.
Non, je ne prétendrai pas du tout.
Bouleverser, en tout cas, quelques points de vue.
Non, compléter, réunir...
on connaît Hadrien par Marguerite Yourcenar.
Alors, justement, ce sera pour moi un bon point de départ, en tout cas de réflexion, sur la manière dont elle a très courageusement utilisé les inscriptions, celles qu'elle connaissait alors qu'elle pouvait connaître. Mais si j'ai choisi pour ce dernier cours de m'aventurer d'une certaine manière dans une époque un petit peu différente de celle dont j'ai l'habitude, c'est d'une part qu'il n'y a pas de rupture totale avec Athènes hellénistique, car il sera aussi question d'Athènes, mais Athènes ne sera plus au cœur du sujet, ne sera pas absente non plus, car il ne faut pas oublier qu'Hadrien était un grand philhellène et surtout un grand ami d'Athènes, et qu'il a tout fait pour faire d'Athènes le centre culturel du monde romain, en tout cas du monde romain oriental, du monde hellénophone. Donc, d'une certaine façon, c'est conclure sur Athènes hellénistique, qu'Adrien a essayé de rétablir dans sa prospérité et surtout dans son rôle de phare des écoles de philosophie, de la rhétorique et de l'art en général. Mais il est vrai que ce qui m'a déterminé en faveur de ce sujet, c'est un extraordinaire accroissement de la documentation épigraphique ces dernières années. Disons, pour voir les choses plus largement, en tout cas, depuis Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar, en 50 ans, il y a eu un nombre invraisemblable. Et ça n'est pas vrai de tous les empereurs.
De nouveaux documents,
de nouveaux documents, de nouvelles lettres, notamment d'Adrien aux cités grecques. J'avais eu l'honneur, la chance, en 2006, de publier l'une de ses lettres parce qu'elle était arrivée au Louvre et elle m'avait beaucoup intéressé. C'est une des raisons aussi de mon attachement pour ce sujet. Et j'aimerais, d'une certaine manière, montrer en quoi l'image que nous a donnée de façon magistrale, Marguerite Yourcenar, dans ses mémoires fictifs, de voir dans quelle mesure les nouveaux documents entraient dans cette vision, ou au contraire, obligés à réviser une certaine façon de voir ce règne de 20 ans, donc assez court d'une certaine manière, extrêmement dense, d'un empereur voyageur qui a traversé toutes les régions de l'Empire. Je m'attacherai moi-même à la partie orientale, encore une fois, parce que les documents sont grecs, et j'espère ainsi, non pas bouleverser la connaissance du règne d'Adrien, surtout pas à l'égard des spécialistes, mais des hellénistes un peu, et d'une manière générale du grand public, autour d'une figure tout à fait originale de l'Empire, ce personnage d'Adrien, grand amateur de lettres, et qui aussi était un administrateur très méticuleux, s'attachant à répondre sur des sujets parfois assez minimes, et visiblement animé des meilleurs sentiments, en quoi il n'a pas toujours été récompensé à l'égard des Grecs, et des Athéniens en particulier.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec ce soir Denis Knopfler, titulaire de la chaire épigraphie et histoire des cités grecques. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec les conférences de l'Université de tous les savoirs. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.
Mmh.